Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, vous savez sans doute déjà comment mardi dernier, 26 juillet, en France, près de Rouen, dans l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray, un prêtre de 86 ans a été égorgé par deux jeunes musulmans se réclamant de l'État islamique et qui ont ensuite signé leur triste exploit en criant la profession de foi musulmane, Allah Akbar, tout en fonçant sur la police qui les a abattus. Et aux yeux de l'islam, ces deux forcenés sont des martyrs. Ils ont obtenu le paradis d'Allah parce qu'ils ont donné leur vie pour tuer des mécréants selon les consignes du Coran. En face, certains commentateurs catholiques ont aussi affirmé un peu rapidement que le prêtre assassiné avait été martyr. Aussi, dans le contexte de cet événement, il peut être utile de se rappeler d'abord rapidement qu'est-ce que c'est que le martyr. Et dans le climat accablant qui tombe peu à peu sur notre pays et sur toute une partie de l'Europe, c'est une vérité qui doit nous apaiser, nous réconforter, comme d'ailleurs tout l'enseignement de Jésus-Christ et de la Sainte Église. D'abord, bien sûr, écartons l'horrible caricature musulmane. Non, évidemment, un terroriste, un tueur, un assassin ne peut pas être qualifié du beau terme de martyr. Le simple bon sens le crie. Qu'est-ce que c'est qu'un martyr ? Un martyr, c'est un témoin. C'est le sens premier du mot grec « martus » qui est employé à ce sujet dans le Nouveau Testament, dans l'Apocalypse. Et ici, faisons attention à un détail. En latin, il existait un mot pour dire « témoin », le mot « testis ». Mais quand on a traduit en latin la Bible et les premiers auteurs chrétiens, on aurait pu donc traduire ce mot grec « martus » par testis. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait là une sorte très spéciale de témoin. Aussi, on a préféré forger un nouveau mot latin, le mot martyr. Et si vous voulez, vous pouvez chercher dans tous les textes latins des auteurs païens de l'Antiquité, vous verrez, le mot martyr ou martyrium n'y figure pas, il n'existe pas encore. Ce sont des mots chrétiens qui ont été forgés par les premiers auteurs chrétiens pour désigner une réalité chrétienne. Le martyr est quelque chose de spécifiquement chrétien. Alors, évidemment, ici, si un franc-maçon m'entendait, un de ces francs-maçons qui, depuis plus d'un siècle, dirige notre pauvre France et travaille avec acharnement à la déchristianiser, et puis même à la dissoudre pour la fondre dans le globalisme universel, si donc un de ces francs-maçons m'entendait, tout de suite il me dirait « Attendez, non, il n'y a aucune raison que le martyr soit une spécialité des chrétiens. Il peut y avoir des martyrs dans toutes les religions. Des martyrs bouddhistes, des martyrs confucéens, des martyrs hindouistes, partout, dans toutes les religions. Pourquoi ? Évidemment, c'est un des dogmes fondamentaux de la franc-maçonnerie que toutes les religions se valent. Ils veulent toutes les mettre sur le même plan. » Donc, pour eux, évidemment, il peut y avoir des martyrs partout. Ils ont d'ailleurs réussi à imposer cette sorte de nivellement sous le nom de laïcité. Et pourtant, il faut leur répondre si. Le martyr est une spécialité chrétienne, une spécificité de notre religion. Et cela pour deux raisons. La première, c'est qu'un faux témoin, par définition, n'en est pas un vrai, et ne mérite donc pas le nom de témoin, et donc pas le nom de martyr. Peut-être que ce faux témoin est sincère, qui s'imagine vraiment avoir vu ce qu'il raconte, mais en fait il se trompe. Il a été victime d'une illusion, d'une façon ou d'une autre, et si ce qu'il dit est faux, il ne peut pas vraiment en être témoin, c'est impossible. Donc, si le martyr est un témoin, seule la vraie religion peut avoir de vrais martyrs. Évidemment, ici, un franc-maçon se récriera en disant « Mais qu'est-ce qui vous prouve que vous êtes dans la vraie religion ?» On pourrait tout simplement le renvoyer à l'épître d'aujourd'hui. Cette épître de saint Paul aux Corinthiens qui a été rédigée avant l'an 55. Tous les spécialistes admettent cette date, tout le monde en convient. Donc avant l'an 55, ça fait moins de 25 ans après la passion et la résurrection de notre Seigneur. Et tous ici, vous devriez connaître cette référence par cœur. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15. Pourquoi ? Parce que dans ce chapitre, donc, qu'on vient de lire, saint Paul mentionne les nombreux témoins qui ont vu Jésus ressuscité. Plus de 500 témoins dont, dit-il, beaucoup, la plupart, vivent encore. Ce qui est normal puisqu'il écrit 25 ans après les faits. Et on a là, sur la résurrection de notre Seigneur, un témoignage écrit d'une très grande valeur historique qui n'a pas d'équivalent dans quelque autre religion que ce soit. Vous savez sans doute que la première vie de Mahomet n'a été écrite que plus de 100 ans après sa mort, plus aucun témoin ne vivait. Quant au fondateur de la franc-maçonnerie, je ne pourrais même pas vous dire précisément son nom, mais s'il était ressuscité, croyez-moi, ça se saurait. Donc, le christianisme a des preuves que n'ont pas les autres religions. Et pour ça, on peut affirmer que le martyr est une spécificité chrétienne, d'abord parce que la seule vraie religion a de vrais témoins. Mais il y a une autre raison, et une raison qui est plus profonde, qui est que le martyr est une imitation de notre Seigneur Jésus-Christ, et même, on peut dire, une participation au Christ. On vient de dire que le martyr est un témoin. Et on pourrait poser la question, mais de quoi est-il témoin ? Évidemment, les tout premiers ont vu de leurs yeux Jésus ressuscité. Saint Paul vient de nous le dire, ça c'est certain. Mais les autres, les suivants ? Pour répondre, il faut se rappeler que la passion de notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas seulement été un sacrifice, dont Jésus est à la fois la victime et le grand prêtre, c'est aussi le grand témoignage que Jésus se rend à lui-même. Et souvenez-vous que vraiment, Jésus a été condamné à mort pour cela. Il a comparu devant le grand prêtre qui lui a demandé s'il était le Christ. Il a adjuré par le Dieu vivant de répondre. Et Jésus a affirmé qu'il était le Christ, il a affirmé sa divinité. Et le grand prêtre a déchiré ses vêtements en disant « Qu'avons-nous besoin de témoins ?» Il vient d'avouer et tous de s'écrier « Il est coupable de mort ». Jésus a été condamné à mort pour cela, pour avoir porté témoignage à sa propre divinité. Et par le baptême, nous sommes comme greffés sur Jésus-Christ. Nous recevons sa vie dans nos cœurs. Et on comprend alors ce que c'est que le martyr. De quoi témoigne le martyr ? Eh bien, on peut dire qu'il extériorise, qu'il rend visible autour de lui cette vie de Jésus qu'il a à l'intérieur. On peut même aller plus loin et dire que c'est à travers le martyr, c'est Jésus qui rend témoignage. Et comme le grand témoignage de Jésus, c'est sa passion, le martyr va nécessairement être une participation à la passion du Christ et reproduire les grandes caractéristiques de cette passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ est à la fois prêtre et victime. Donc il s'offre, il est victime, mais notre Seigneur a voulu lui-même s'offrir. Et il y a quelque chose de cela dans le martyr. Le martyr n'est pas seulement une victime. Aujourd'hui, on voudrait abaisser le sens de ce mot, le galvauder, et on considère plus ou moins que n'importe quelle victime est un martyr. Non, ça n'est pas ça. Le martyr doit porter témoignage, comme on l'a dit, mais il doit aussi accepter la mort. Il est une victime consentante qui accepte de donner sa vie en témoignage. comme notre Seigneur a été comparé à l'agneau qui se laissait immoler, eh bien, de même, le martyr doit manifester ces mêmes dispositions de paix, de douceur et même de joie. On sait que ça a frappé beaucoup de témoins et ça a même mené certaines personnes à la conversion, de voir cette joie évidemment surnaturelle, cette joie calme, paisible, que manifestaient les martyrs. Et en voyant ça, tout le monde se disait, il y a là quelque chose de surhumain, c'est divin. C'est pas eux, c'est quelqu'un d'autre, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui agit, qui souffre en eux. Par ailleurs, notre Seigneur a voulu pardonner à ses bourreaux et prier pour eux. Et on va trouver aussi ça chez les martyrs. Le martyr ne meurt pas en poussant des cris de vengeance. Le martyr pardonne, et on voit ça dans Saint Étienne, le premier martyr après notre Seigneur Jésus-Christ, prie pour ses bourreaux et du coup il obtient la conversion de Saül qui devient Saint Paul, grand apôtre. Enfin, la passion de notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas une défaite, c'est une victoire qui se concrétisera ensuite, qui se manifestera, c'est déjà une victoire, mais elle se manifestera dans la résurrection. Et de même, le martyr chrétien contient une force de résurrection, ce qui a permis de dire, déjà Tertullien le disait, « Sanguis Christianorum, sanguis martyrum, semen Christianorum ». Le sang des martyrs est une semence de chrétiens. Donc le martyr réussit, en offrant sa mort, à diffuser le christianisme, il est vainqueur. Alors, maintenant, essayons d'appliquer un petit peu ce que nous venons de voir à l'actualité. Rappelons que l'Église ne veut pas qu'on décerne inconsidérément le titre de martyr sans qu'il y ait auparavant une enquête canonique. C'est notamment pour ça que tout près d'ici, parmi les plus de 2000 personnes qui ont été fusillées au champ des martyrs d'Avrier, seulement 99 ont eu droit à porter ce titre de martyr. Vraisemblablement, beaucoup plus d'entre elles l'étaient, étaient réellement martyrs aux yeux de Dieu, mais l'Église a voulu faire une enquête pour qu'on ne donne ce titre qu'à ceux dont on pouvait prouver qu'ils avaient été tués en haine de la foi et qu'eux-mêmes avaient accepté la mort en témoignage de cette même foi. Et il fallait pouvoir le prouver. Évidemment, on souhaite que le père Hamel, qui a été tué il y a quelques jours, soit martyr. Cela dit, pour l'affirmer, il faudrait qu'il y ait une enquête et qu'on y paraît, je ne sais pas, je n'ai pas creusé la chose, qu'il s'est débattu, il peut s'être débattu et avoir accepté la mort après. L'un n'empêche pas l'autre. Mais il faudrait une enquête. De même, il faut que la mort soit acceptée en témoignage à la foi catholique. Malheureusement, ce pauvre prêtre était membre de l'Église conciliaire qui, dans tous ses discours, semble plutôt dire que toutes les religions se valent plus ou moins. Et il faut reconnaître qu'il y a un très triste symbole dans le fait que ce premier prêtre ainsi égorgé par les islamistes en France le soit dans une paroisse, Saint-Étienne-du-Rouvray, qui avait justement quelques années auparavant, donner un terrain aux musulmans pour qu'ils y établissent une mosquée. Il y a là une sorte de parabole assez triste. Mais voyons plutôt en quoi cet événement nous concerne. Et rappelons-nous, ici, comme souvent, il y a deux erreurs à éviter. D'un côté, évidemment, il faut affirmer que l'islam est une fausse religion. Il ne faut pas tomber dans les slogans qui sont répétés partout, comme quoi la seule façon de s'unir est désormais de laisser plus ou moins de côté les différences religieuses et puis d'essayer de vivre ensemble. Non, l'islam est une fausse religion qui a là montré ses fruits de mort, et qui, pire encore, mène en enfer. Ça, il faut le dire. D'un autre côté, il ne faut pas non plus tomber dans une sorte d'esprit de vengeance ou de dialectique primaire contre les musulmans. Ça n'est pas l'esprit chrétien. L'esprit chrétien est un esprit de pardon. Il faut considérer que l'islam est une fausse religion. Tous les musulmans ne sont pas forcément au même niveau que leur fausse religion, certains sont meilleurs qu'elles, et de toute manière, nous devons tous les aimer, essayer de les amener à la vérité. Et si on a l'esprit de vengeance, on ne peut pas être martyr. Or, il faut essayer de développer en nous cet état d'esprit qui a été celui des chrétiens pendant les trois premiers siècles. Rappelons-nous, tous les premiers chrétiens étaient dans cet état où ils pouvaient mourir martyrs un jour ou l'autre. Tous les apôtres sont morts martyrs. Tous les papes, les premiers papes pendant trois siècles, sont morts martyrs. C'était la vie quotidienne. Au point même que lorsqu'il y a eu l'édit de Milan et que les persécutions ont cessé, un certain nombre de chrétiens se sont dit « Mais alors, le christianisme va devenir facile. Où sera notre héroïsme ?» Et c'est pour ça qu'un certain nombre d'entre eux sont partis au désert pour inaugurer cette nouvelle sorte de vie chrétienne où ils voulaient garder de l'héroïsme, qui était la vie érémitique et la vie religieuse. Donc, ça fait plus ou moins partie de notre vie chrétienne, à l'imitation justement de notre Seigneur Jésus-Christ, puisqu'il est mort sur la croix. Et il faut nous préparer par la fidélité au jour le jour à ce que notre Seigneur nous demandera, peut-être qu'il nous demandera d'être martyrs, peut-être pas, mais en tout cas, nous devons nous identifier à lui. Pensons également et rappelons-nous que des prêtres égorgés, il y en a eu, et pas très loin d'ici, ici à Angers, sur la place du Ralliement, Noël Pinault a été égorgé par la guillotine, et rappelons-nous donc que la religion laïque qui domine aujourd'hui notre société, la religion maçonnique, s'est aussi installée chez nous par la terreur et en égorgeant des prêtres. Et elle n'est pas meilleure que la religion islamique. Donc, entre les deux, nous n'avons pas à faire de choix. Nous avons à essayer de vivre notre vie chrétienne, mais ne tombons pas dans certains pièges et certaines provocations en nous excitant bêtement contre les musulmans qui ne sont pas forcément les premiers responsables de ce qui arrive, qui les a fait venir chez nous, qui fait tout pour vouloir provoquer une guerre civile, ça n'est pas forcément eux. En tout cas, prions, profitons de ces occasions pour prier, nous rapprocher de notre Seigneur Jésus-Christ, et on peut se dire, mais alors qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on est condamné ainsi à attendre d'être tous égorgés les uns après les autres sans pouvoir réagir? Non. Il y a Dieu, il y a un plan de Dieu sur nous. Si nous devons mourir martyrs, c'est dans le plan de Dieu. Certainement, cela servira à quelque chose. Les premiers chrétiens se sont laissés tuer comme ça pendant trois siècles. Mais finalement, il y a eu cette magnifique éclosion de la chrétienté. Attendons, ne voulons pas devancer les événements. Attendons l'action de notre Seigneur. Il dirigeait tout pour le bien. Préoccupons-nous seulement de coopérer à son plan. Et demandons qu'il nous envoie les chefs surtout, les chefs dont nous avons besoin, les chefs dans l'Église, les chefs religieux qui proclament la vérité. Et puis aussi, s'il le veut bien, dans notre pays. Rappelons-nous comment, pour libérer la France après la guerre de 100 ans, il a suffi que Dieu envoie cette petite jeune fille, Sainte Jeanne d'Arc, mais qui, parce qu'elle venait de Dieu et parce qu'elle correspondait au plan de Dieu, a pu résoudre en quelques mois ce qu'on attendait depuis plus d'un siècle. Donc, demandons ces chefs au bon Dieu, préparons-nous à ce que le bon Dieu attend de nous quoi que ce soit, et puis demandons cette conformité au plan divin, notamment par la très sainte Vierge Marie, la reine des martyrs. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.